CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal, Montréal.
Alors, ici CIBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
CIBL 105 au cœur de Montréal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Prendre Racine, une émission qui regarde l'immigration sous la loupe de la langue française. Cette émission vise à comprendre l'impact du français sur l'intégration des nouveaux arrivants, peu importe d'où ils viennent dans le monde. Donc, durant tout l'automne, moi, Marie-Ève Link et ma collègue Aude Jiménez, nous parcourons tous les arrondissements de Montréal pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de quitter leur pays d'origine pour trouver autre chose ici, à Montréal. Et aujourd'hui, nous accueillons Edgar Orozco, originaire du Mexique et qui vit au Québec depuis 10 ans. Bonjour Edgar.
Bonjour.
Nous aurons également l'occasion de nous entretenir avec Nisrin Aliaya, la directrice générale de l'organisme Carrie Saint-Laurent.
Bonjour.
Bonjour. Donc, on va commencer avec vous, Edgar, cette heure. Alors, on va essayer de faire plus ample connaissance. Donc, on va parler un peu de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites ici à Montréal. Donc, tout d'abord, vous êtes arrivé ici il y a donc 10 ans. Mais ce n'était pas votre premier pays d'immigration.
Oui, c'est exactement ça. J'ai vécu en Allemagne, et puis en Équateur. Et puis, c'est pour ça que quand on me pose la question « D'où est-ce que tu viens? » Je dis toujours well, « c'est dur à dire parce que je suis né au Mexique, mais il y a 30 ans, quelque chose comme ça, que je n'habite pas au Mexique. Les derniers pays où j'ai habité étaient Équateur. » D'accord. Avant de venir ici au Canada. Et nous avons décidé de venir ici au Canada parce que ma femme voulait faire ses études de doctorat.
Ah, d'accord. Donc, vous avez bougé de l'Équateur. Vous étiez en Équateur pendant combien de temps?
J'étais en Équateur pendant 6 ans.
Et en Allemagne avant?
Et l'Allemagne, 3 ans.
En Allemagne, est-ce que vous avez étudié là-bas ou non, c'était...
Non, à l'époque, je travaillais pour une compagnie allemande.
D'accord.
Donc, la compagnie m'a envoyé en Allemagne. Donc, j'étais un expat en Allemagne.
D'accord. Très bien. Et donc, quand même, vous avez bougé du Mexique à l'Allemagne, à l'Équateur. Et là, finalement, pour atterrir au Canada. Vous avez suivi votre femme, vous avez suivi qui, hein, donc, et comment ça s'est passé l'arrivée ici, les premières semaines à Montréal?
Oui, donc, c'était très, très agréable de venir ici à Montréal. On était bien excités, tout excités, surtout parce qu'on savait qu'on venait à la province de français. Donc, moi, j'aime les langues. Donc, je disais, ah, c'est une belle opportunité pour apprendre le français. Donc, mon année a commencé à étudier l'école en français. Et puis, et voilà, c'est ça.
Et donc, est-ce que vous parliez un petit peu français avant ou vraiment vous êtes arrivé pour apprendre le français à Montréal?
Je suis arrivé pour apprendre le français.
D'accord. Donc, et est-ce que vous avez tout de suite trouvé les ressources pour pouvoir apprendre la langue?
Non, pas vraiment, parce que à l'époque, quand je suis arrivé, j'avais entendu parler de francisation et tout ça. Mais malheureusement, quand j'étais, comme je dis, un immigrant de 5e catégorie, il n'y avait aucun droit à rien, aucune francisation, rien. Donc, je suis allé au centre Pauline Julien pour dire « OK, la francisation ». Il m'a dit « Non, monsieur, vous n'avez pas les droits ».
OK. Parce que je pense que ça a changé. Je ne sais pas, Nisrine, si ça a changé. Hein. Maintenant, les conjoints de personnes qui viennent étudier ici ont accès à la francisation, mais c'est nouveau d'il y a quelques années.
C'est très, très nouveau, en fait, actuellement, l'ouverture à l'accès aux services, chose qu'on trouve très, très intéressante et très pertinente parce qu'auparavant, on ne pouvait pas avoir accès à ce genre de service. Puis on s'entend que sans le français, on ne peut pas faire grand-chose ici au Québec.
C'est difficile.
Et surtout pour se placer en emploi de qualité selon les compétences transférables du pays d'origine.
Effectivement.
Par contre, il y a beaucoup de... Bon, pas beaucoup, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fréquenté la maison de la métier qui donne des cours en français de langue. Je pense que sont 46 $ ou quelque chose pour ça par session. Et aussi, j'ai fréquenté aussi le centre de loisirs de Côte-des-Neiges. C'est aussi une façon. Et puis, j'ai pris deux sessions dans les YMCA, mais c'est cher. Donc,
C'est cher, mais ce n'est pas le plus cher. Hein?
Oui, je sais.
Mais oui, c'est beaucoup plus cher qu'un organisme communautaire ou la francisation, qui est donc gratuite, bien sûr, et plus encore. Bien. Et donc, vous avez passé la première année à apprendre le français. Est-ce que vous êtes arrivé... tout seul avec votre femme qui étudiait ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes de la famille?
Non, en fait, ma femme est arrivée ici en mai 2010 et puis je suis arrivée avec les enfants, notre enfants, en août 2010. Donc, l'histoire dans l'aéroport a été très, très agréable parce que les agents d'immigration, on me voit à moi avec mes petites enfants, avec ma tout petite dans les bras et tout ça. On dit, ah, c'est très mignon, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, vous accompagnez à l'épouse. Je me sentis très bien accueilli ici, que j'étais très content. Donc, mon première impression d'ici à Montréal était incroyable.
Donc, une première bonne impression, tant mieux, parce que c'est pas tout le monde qui a cette expérience-là, donc c'est génial. Et vous êtes arrivé l'été, alors en plus, il faisait chaud, il faisait beau, donc ça aide beaucoup.
aussi, oui.
Et vous êtes devenu papa à la maison, donc, avec vos enfants. Est-ce qu'ils avaient l'âge de commencer l'école en classe d'accueil ou pas encore?
Seulement mon année. Qui était, il avait 8 ans à l'époque. Et puis, il a commencé la classe d'accueil. Et puis, malheureusement, on a décidé, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé, si je peux dire ça? Est-ce qu'il a resté dans la classe d'accueil pendant 6 mois? Et puis, après 6 mois, il était ennuyé, il était très mal à l'aise. Et puis, je suis allé à l'école à parler, OK, je pense que c'est le temps, parce qu'un enfant apprend vite de passer à la classe régulière. Et monsieur le directeur, malheureusement, il a menti. Il m'a dit, non, ce n'est pas possible, il faut qu'il passe ici un an. Et puis après, on va faire un examen. Et puis, peut-être que les prochaines années... Je me disais, non, il y a quelque chose ici que ça ne marche pas parce que... Et puis, en fait, l'investigation, le problème était que l'école à Ville-Saint-Laurent était débordée. Il n'y avait place dans les classes régulières et c'est pour ça. Donc, dans ce moment-là, on a décidé d'envoyer mon enfant à l'école en anglais.
Okay.
Donc, il a resté dans l'école anglophone.
C'est malheureux. Des fois, les gestes que certaines personnes posent, ils ne savent pas les conséquences que ça peut y avoir. Mais bon, on va continuer un peu en sachant qu'est-ce que vous avez... le premier choc culturel, mis à part la langue, quand vous êtes arrivé à Montréal...
Je dirais que, comme vous disiez, à part de la langue, j'ai jamais senti ici à Montréal que la langue, c'est un... En fait, je dis que le pire endroit pour apprendre le français, c'est à Montréal.
Oui.
Parce que je commençais à dire, excuse-moi, mais si est-ce que... what do you want? Ah, OK, on parle anglais. Donc,
oui.
C'est ça. Donc, j'ai jamais senti que la barrière de la langue... Et puis, j'ai remarqué que même les personnes, quelques personnes francophones, en me parlant, voyaient l'opportunité de pratiquer l'anglais.
L'anglais, oui.
Donc, mais je disais non, il faut que j'apprenne le français quand même. Et puis, parce que j'ai commencé à travailler dans une compagnie anglophone, donc j'ai travaillé avec des compagnies des États-Unis, donc étaient anglophones.
Donc, tout le monde 100%. Parle anglais.
Tout le monde, oui. Oui,
c'est ça. Ouais, malheureusement, je le dis toujours, c'est le pire endroit pour apprendre le français, c'est Montréal, vraiment, malheureusement.
Je pourrais tellement vous raconter une anecdote par rapport à cela, parce que moi-même, je suis à 100% francophone, mais je parle l'anglais parce que l'anglais, c'était ma deuxième langue après ma langue maternelle en apprentissage. Puis quand je suis arrivée ici au Québec, à entendre l'accent déjà au départ, je ne comprenais pas nécessairement ce qu'on me disait tout de suite. Donc, la solution la plus simple, c'était, OK. Let's go, on va y aller avec l'anglais. Mais à un moment donné, je pense que ce qui a fait une sorte de réveil dans mon esprit, c'était le fait d'avoir décidé moi-même que je voulais émigrer au Québec pour être dans la province francophone. Et c'était de faire l'effort, justement, d'aller vers les gens pour leur dire de « s'il vous plaît, est-ce que vous voulez parler un petit peu plus lentement pour que je puisse comprendre?
Oui. »
Parce que continuer en anglais n'était pas nécessairement de mise pour une meilleure intégration. Donc, je pense que c'est la situation de plusieurs parmi nos immigrants,
oui.
De se sentir dans cette équation de « si je parle anglais, c'est correct, oui. Mais jusqu'à quel point correct,
oui,
en
c'est
fait? »
Qu'on se rend compte à un moment, où ils se rendent compte à un moment que ça les bloque pour certains emplois,
exact.
Parce qu'ils vont avoir un emploi plus de base, mais s'ils sont bilingues, donc l'emploi va être... ils ont des meilleures chances d'emploi.
Exact.
Donc, oui, effectivement. Et j'imagine c'est ce que vous avez peut-être ressenti, Edgar. Donc, vous avez décidé de vous mettre au français.
Oui, parce que quand je suis devenu résident permanent, j'avais les droits de la francisation. Donc, j'ai commencé à faire la francisation. J'ai déjà avancé, mais quand même, je pense que j'ai commencé dans Sainte-Pauline-Julienne dans le quatrième niveau. Quelque chose comme ça. Et puis, j'ai continué jusqu'à la fin. Et puis, mais honnêtement, je n'ai jamais utilisé les français dans mon travail jusqu'à 2018, quand j'ai commencé à travailler pour une compagnie, c'est une compagnie américaine, mais le headquarters ici...
Le siège social.
Le siège social ici à Québec City.
À Québec,
donc je parlais plus de français aussi.
Ah, c'est bon, oui, parce qu'à Québec, ça va être plus en français. Là. Si le siège social est là-bas, il n'y aura pas beaucoup d'anglais. Bien, on revient un petit peu au Mexique, juste le temps que vous nous avez choisi une chanson mexicaine, je crois.
Oui.
Donc, pouvez-vous nous la présenter et nous dire pourquoi vous avez choisi cette chanson?
Oui, c'est une chanson de Nathalie Lafourcade, « Tu sais quererme ». Et j'aime cette chanson-là parce qu'il y a des rythmes mexicains, traditionnels, avec un swing moderne que j'aime bien. Et puis.
Et avec le titre, c'est une chanson d'amour, j'imagine.
C'est une chanson d'amour, oui.
C'est bien. Donc, on écoute maintenant Tu si sabes quererme de Natalia Lafourcade.
Finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada. Me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme. Tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre. Para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Thank you.
esperado tanto tiempo. Finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarlos. Corazón, tú sí sabes.
Tú sí sabes quererme, en manos de los Macorinos, donc de Natalia Lafourcade, une chanson mexicaine choisie par notre invité aujourd'hui, Edgar Orozco. Donc, on va continuer à discuter un peu avec vous, Edgar, et de savoir, est-ce que, on va continuer un peu sur la langue, l'intégration, tout ça, et peut-être la culture aussi québécoise.
Oui.
Donc vous avez peut-être un petit peu tardivement appris le français, ou du moins l'avoir pratiqué d'une façon quotidienne ou dans votre quotidien. Mais est-ce que vous pensez que depuis que vous vivez un peu plus en français, que ça aide beaucoup à l'intégration au Québec de connaître la langue, ou plus ou moins? Parce que vous êtes quand même à Ville-Saint-Laurent, hein? C'est très, très multiculturel.
Oui, oui. Non, on fait. Non, j'ai jamais senti ça. Par contre, quand je suis allé à Québec, là-bas, on peut dire qu'on sent que c'est différent. On parle plus de français, donc c'est différent. Mais ici à Montréal, non, honnêtement, non, parce que par exemple, j'ai joué au soccer à Pointe-Claire, et puis dans l'équipe, il y a 20 personnes, et je pense qu'il y a seulement 3 Québécoises, et 2 sont Québécoises anglophones, et seulement 1 Québécoise francophone.
Oui, c'est sûr que Pointe-Claire, c'est le West Island. Non? On traduit même pas ouest de l'île tellement c'est anglophone. Donc,
ouais.
C'est sûr que ça. Et Ville-Saint-Laurent ou Mbala, là, il y a tout du monde de partout, tout le temps, de je ne sais pas combien de nationalités ou de communautés là-bas, mais c'est des centaines, une centaine au moins. Là.
On fait dans le Maroc. Il y a un bantan de maisons, et je pense qu'il y a 2 Québécoises, et les restes sont des Indiens, des Chinoises, Vietnamiennes. Mon voisin, c'est français, nous, Latinos, donc c'est tellement multiculturel. Donc c'est pour ça que je dis oui, je peux dire que je me sens plus dans une société multiculturelle que dans une société francophone québécoise. je ne sais pas si parce que c'est Ville-Saint-Laurent que ça se passe.
Ouais. Si vous déménagez à Hochelaga, peut-être que ça va être un peu différent. C'est quand même beaucoup plus... Ou dans l'est de la ville, à Pointe-aux-Trembles, où tout ça, c'est très francophone. Donc là, ça va être, ça va être beaucoup plus difficile de parler anglais ou de parler... Même plusieurs personnes ne parlent pas anglais du tout. Okay. Puis l'immigration qu'il y a dans ces régions-là est souvent... il y a beaucoup d'immigration de langue française aussi. Mm. Donc, c'est sûr, ça, Montréal, c'est un peu difficile, hein, comme vous disiez. Il y a beaucoup... C'est cosmopolite et il y a certains quartiers plus cosmopolites que d'autres et d'autres plus anglophones que d'autres. Donc, vous vous intégrez par le sport aussi, pas seulement par le travail.
Exactement, oui. Et aussi avec les activités des enfants aussi, parce que mes trois enfants font des sports. On a joué hockey, baseball, soccer, American football, donc ringuette, donc plein de activités. Et encore une fois, les parents, nous parlons anglais. En hockey, il avait, je dirais, un petit plus de français, mais sinon, soccer, il y a de tous les pays. Ouais. Donc.
Bon. Et en fait, vos enfants sont tous à l'école anglophone ou maintenant ils sont à l'école francophone?
Non, ils sont tous dans l'école anglophone.
OK.
Donc, nous sommes devenus résidents permanents. Ils sont changés à l'école francophone, mais je pense que ça a été pas bon, bien reçu de mes enfants, je dirais de mes deux petits enfants, parce que mon année était en train de terminer, donc il est terminé en l'école en anglais. Et parce que quand je lui donne la notice, la nouvelle de dire, OK, il faut que vous fréquentez l'école francophone maintenant. Il était mal content. Il disait, mais pourquoi? Je ne comprends pas.
Parce
pourquoi.
Que tout son parcours était déjà en anglais. Là, tout d'un coup, paf, on change en français sans vraiment... Donc là, tout se refaire des amis, retrouver une autre culture aussi. On va bouger un peu plus d'ailleurs vers la culture. Est-ce que vous connaissez un peu la culture québécoise alors, ou la culture francophone québécoise? Parce que si vous avez peu de liens avec des francophones, est-ce que vous avez réussi à connaître un peu?
Pas dans un premier contact, parce qu'encore une fois, je trouve difficile à trouver des Québécoises comme des amitiés. Surtout, comment est-ce que je définis une Québécoise? Une Québécoise, pour moi, c'est une personne née au Québec, ses quatre grands-parents sont nés au Québec.
OK, donc je ne suis pas québécoise, personne n'est québécois, ou presque, ça va être difficile, là, c'est assez restrictif.
Oui, non, ça une définition à moi, mais OK. Mais de toute façon, bien sûr, à l'école, à Sainte-Pauline-du-Lien, à Saint-Déloisir de Côte-des-Neiges, il y a beaucoup de satellites qui... essaye de nous informer de la culture. On fait des sorties à la cabane sucre, on mange
de la tire sur la neige.
Et quelques activités pour nous donner le sens de que OK, il y a des sorties pour le ski, de prendre les activités que les locaux
font. Aller cueillir les pommes.
Recueillir les pommes, les citrouilles, et tout ça. Donc, d'une façon, oui, mais je connais, je dirais plutôt en théorie, parce que je suis allé bien sûr à ces sorties-là, mais avec une Québécoise qui dit, oh oui, je me rappelle que... Quand j'étais petit, toute ma famille faisait ça, d'aller cueillir les citrouilles, les pompes. Bon. Non, pas vraiment.
OK. Mais et musicalement, est-ce que vous avez découvert un peu la musique québécoise? Ou,
Non, pas du tout. Pas du tout, non, c'est plus long. Par exemple, oui, j'essaie de trouver quelque chose, quelques chansons de trouver quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, c'est dur parce que je pense que la musique anglophone prend beaucoup d'espace.
OK.
Donc, c'est difficile. Et même, j'ai trouvé que les artistes francophones commencent à chanter en anglais aussi. Donc, je trouve ça... Mais par contre, oui, il y a des... Par exemple, j'ai une chanson qui est une de mes chansons préférées. C'est ici de... je me rappelle de Bayares.
Vincent Vallière, oui, c'est la chanson que vous nous avez choisie. Donc, Vincent Vallière, on va s'aimer encore. Exactement. Une autre belle chanson d'amour. Oui. Donc, oui. On va écouter ça à l'instant et on en reparle tout de suite après.
On verra dans le miroir nos faces ridées pleines d'histoires. Quand on en aura moins de vin qu'on en a maintenant. Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement. Quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer. On va s'aimer encore, au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir. Quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir. Quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience. Quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre. On va s'aimer encore, au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore, au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Démodé. Quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester. Quand sans boussole, sans plan, on partira au gré du vent. Quand on lèvera les voiles devenus de la poussière d'étoiles. On va s'aimer encore, après nos bons coups, après nos déboires, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore, au bout de nos doutes, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer encore, au bout du doute, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer.
c'était Vincent Vallière et On va s'aimer encore. Donc, comment vous avez connu cette chanson, Edgar?
Je l'ai écoutée dans la radio, puis je l'aimais. Donc, j'aime vraiment ces canciones-là. C'est un de mes préférés de toute la vie.
C'est une très belle chanson, oui, effectivement. Donc, nous, on va faire une petite pause, puis au retour, on va parler de l'organisme Carrie Saint-Laurent.
Le régime de rente du Québec assure aux travailleurs comme vous un revenu de base pour la retraite. Et ça, c'est de la musique à vos oreilles. Parce que, oui, oui, ça va venir vite. Mais mettons que vous voulez une retraite encore plus harmonieuse. Ben, il faudrait penser à en mettre un peu de côté de votre bord aussi. C'est juste un petit peu, ce que vous pouvez. Pour vous guider afin d'orchestrer tout ça, rendez-vous sur le site de Retraite Québec. Vous allez voir, ils ont plein de bons instruments de planification. Un message du gouvernement du Québec.
Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
Vous voulez faire une différence pour CIBL et vous avez votre radio communautaire à cœur? Joignez-vous à nous en tant que membre via le CIBL1015.com dans la section Devenir membre. Pour 5 $, vous allez faire une grosse différence.
Vous voulez tout savoir sur la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise? Eh bien, excusez-la pour vous. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous les dernières tendances en musique trad, mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues. En compagnie de Marc Bolduc, chaque semaine, le dimanche, 18h, en rediffusion les mercredis, 11h, sur les ondes de CIBL 101.5.
Donc, on est de retour à Prendre Racine et on rencontre maintenant, en fait, on lui a dit bonjour au début de l'émission. Là, on rencontre Nisrine Aliaya, qui est la directrice générale du Carrie Saint-Laurent. Alors, qu'est-ce que le Carrie Saint-Laurent? Que fait cet organisme, pour ceux qui ne le connaissent pas?
Quelle grande question!
Il fait beaucoup de choses, hein?
Beaucoup, beaucoup de choses, en fait.
Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un très grand organisme.
C'est un très grand organisme. En fait, ouais. Le Carrie Saint-Laurent a été créé en 1989. Donc, ça fait bientôt 32 ans qu'on est créé. En fait, c'est le centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants. Puis, notre mission est vraiment d'accueillir, d'aider et d'accompagner les personnes immigrantes à tous les niveaux. Donc, on a autant un service d'accueil d'intégration qu'un service de francisation, qu'un service de parents jeunesse, qu'un service en employabilité, donc accompagnement en emploi, et un service qui est aussi très important, à savoir le PVC, donc éducation populaire et vie communautaire et Femmes du monde. Donc, l'organisme fait plus d'une centaine de services et tous sous le même toit. On le fait à titre individuel ainsi qu'en rencontre de groupe, donc dépendamment. Puis, on assure ce qu'on appelle un continuum de services à partir de où la personne est accueillie ici, donc au Québec, arrivée à ses premiers jours ici, puis jusqu'au moment où on continue avec elle dans différentes conditions et à travers beaucoup, beaucoup d'activités, y compris quand elle devient citoyenne.
Donc, c'est un suivi individuel si la personne, si le nouvel arrivant le désire, des ateliers de groupe sporadiques sur des sujets précis, j'imagine. Mm-hmm. Est-ce que c'est surtout en emploi ou il va avoir des ateliers plus culturels ou autres?
De tout, en fait. Je peux vous dire simplement qu'on a même des activités de cuisine et de couture au niveau de Femmes du monde, que des ateliers sur la citoyenneté et comment l'obtenir, que bien sûr toute la gamme d'ateliers concernant l'informatique, la discussion en langue française, mais aussi les ateliers d'employabilité, la boîte à outils du chercheur d'emploi, les bilans de compétences, les portfolios, les entrevues d'embauche, et tout ce qui va avec.
Oui, donc c'est énorme. Et en francisation, c'est un des plus gros centres, je crois, au temps partiel et même au temps... Vous avez même du temps plein, oui. Ce qui est assez rare dans les organismes. Habituellement, c'est en institution scolaire.
Absolument.
Donc c'est beaucoup de services. Et vous devez voir passer mais beaucoup de nouveaux arrivants à chaque année, à chaque mois même.
Bien, je vous dirais que notre chiffre de l'année dernière, malgré la COVID, a été de plus ou moins 7500 usagers. Donc, on s'entend que c'est énorme. Et qu'en francisation, nous avions reçu 1067 usagers l'an dernier.
Quand même. Oui. Et
c'était pendant la pandémie.
Et oui. C'est donc, c'était un moment un petit peu plus lent.
Plus calme.
Hein? Oui, beaucoup plus calme.
Notre moyenne annuelle est de l'ordre de généralement une moyenne de 12 000 personnes ou 12 000 usagers. Donc, malheureusement, avec la baisse de nombre d'arrivées cette année-là, puis avec la situation pandémique, c'est certain qu'il y a eu quand même un petit recul en termes de chiffres. Mais on espère qu'on va avoir une remontée bientôt.
Oui, on le souhaite. Et donc, le français, donc la francisation, entre autres, mais peut-être à l'intérieur d'ateliers et tout ça, quelle place prend-il au CARI pour les ateliers, pour les... Est-ce que ça aide à l'intégration, selon vous, le français, aide à l'intégration du nouvel arrivant?
Bien, c'est certain qu'une personne qui ne parle pas français... ou qui ne suit pas les cours de francisation, aurait beaucoup moins de chances de bien s'intégrer dans la société d'accueil. Et puis nous, notre objectif, c'est de vraiment que la personne se sente citoyenne à part entière. Et c'est un gros défi, certainement, parce qu'on s'entend qu'on y va avec du français très, très simple, basique pour des gens qui ne parlent pas du tout le français, jusqu'à un français beaucoup plus développé, évolué. Puis c'est exactement la différence entre suivre la francisation à niveau de base et suivre un atelier de citoyenneté quelques années plus tard.
Oui.
Donc, c'est vraiment ce qui se passe entre les deux qui nous concerne aussi.
D'accord. Et sinon, qu'est-ce que ça signifie pour vous, intégration?
Oh mon Dieu! Est-ce que c'est une question?
Oui, on a une heure, non?
Ben, disons que ça prendra pas mal beaucoup plus longtemps que ça. Mais je vais vous donner une explication qui, à mon avis, est la meilleure. Une personne, vous savez, on parle très souvent d'intégration, on parle d'inclusion, mais pour moi, c'est faire partie de l'ensemble. C'est ça, être intégré. Mais une intégration réussie aussi passe par tous les défis, oui. À savoir comprendre la culture de la société d'accueil, comprendre ce qui est dit puisqu'ils n'ont dit. Parler la langue ne veut pas dire parler le langage.
Non.
Et c'est vraiment la démystification des codes culturels,
des
de
codes
se sentir
sociaux.
Bien, d'avoir des enfants qui réussissent, d'avoir une compréhension commune des notions de la société québécoise, c'est très, très important, autant pour moi comme individu que pour le Carré Saint-Laurent, certainement comme organisme qui s'occupe de l'accueil et de l'intégration des personnes immigrantes.
Oui, parce qu'au-delà de la langue, il y a quand même les valeurs, les codes, la culture, c'est très large. Et pour une intégration réussie, il faut que tout ça
rime.
Oui,
ben
tout
oui,
ça rime,
tout à fait.
Exactement. Oui, très bien. Et d'ailleurs, Edgar, vous avez fait appel au service du Carré Saint-Laurent. Dans quelles circonstances?
Oui, et donc j'étais en train de prendre des activités chez Carré dans l'atelier pour parler le français.
Des ateliers de conversation.
Des ateliers de conversation, exactement. Donc, j'ai participé à ça. J'ai participé dans les ateliers d'emploi, des ateliers d'intégration. Il y a des autres ateliers. Il y a pas mal d'ateliers où on peut participer. Moi, je les trouve fantastiques.
Qu'est-ce que vous avez appris de ces ateliers-là? Qu'est-ce qui a été le plus important? Est-ce que ça vous a donné confiance en français?
Oui, surtout au niveau de la langue. Comme je ne parle français assez quotidiennement. De parler pendant ces ateliers au moins deux fois par semaine, ou une fois par semaine, ça aide beaucoup Sinon, je ne serais pas capable de parler maintenant avec vous.
J'allais dire, mais et maintenant, vous faites une émission de radio en français. C'est quand même incroyable.
Ben, l'idée derrière ces ateliers de conversation, c'est vraiment de choisir une thématique au cours de laquelle les personnes peuvent participer, partager. Et puis, il n'y a aucun jugement par rapport à différents niveaux. Vous savez, notre peur principale quand on vient d'ailleurs, c'est d'être jugé négativement par rapport à notre... disons, accent par rapport à notre façon de parler le français. Puis là, il n'y a vraiment aucune raison pour laquelle la personne est jugée. Au contraire, ça va donner plus envie d'être compris à travers même ces ateliers virtuels, entre guillemets.
Oui, effectivement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de défis hein, quand on est un nouvel arrivant. Quelle a été... Tiens, je vais commencer par Edgar et après, je vais demander à Nisrine ce qu'elle en pense plus globalement avec tous les nouveaux arrivants qu'elle a vus. Quel a été le plus gros défi d'intégration quand vous êtes arrivé, du moins ici, pour s'installer à Montréal?
Je pense que ça a été au niveau de l'emploi parce mm-hmm. que... Je me rappelle que quand je suis arrivé, on me demandait de l'expérience québécoise mm-hmm. ou de l'expérience canadienne. Mm-hmm. Je ne me rappelle comment est-ce qu'il me disait. Et je pensais, OK, j'ai travaillé déjà dans les États-Unis, dans l'Allemagne, dans le Mexique, en Équateur, dans une demande technique. Mm-hmm. Et puis, je pense qu'il y a assez d'expérience. Donc, je ne comprenais pas mm-hmm. bien. C'est... Ça, donc, ça a été pour moi, ça a été le plus grand défi de quand je suis arrivé. Oui,
ouais, ça, c'est un truc difficile. Je crois que c'est une façon de penser très britannique parce que j'ai eu le même problème en immigrant au Royaume-Uni. C'était où est l'expérience britannique. Oui, donc c'est. Mais mm-hmm. je sais qu'ailleurs, c'est pas nécessairement ça. Donc, oui, ça, c'est difficile, mais vous avez pu surpasser tout ça.
Oui, exactement.
Heureusement. Mm-hmm. Et Nisrine, vous iriez dans le même sens?
C'est certain que la langue est une barrière principale quand on parle de problématiques d'intégration. Oui. Donc, c'est comme le BAB de l'intégration. Mais c'est certain aussi que l'employabilité des personnes immigrantes est un gros défi. Trois facteurs principalement. Le manque de reconnaissance d'acquis des compétences. Mm-hmm. Donc là, on se retrouve face à quand même un gros enjeu qui perdure depuis plus d'une vingtaine d'années, puis qu'on sait, puis qu'on nomme. La déqualification de la main-d'œuvre immigrante très souvent quand elle arrive ici. Puis le besoin d'avoir recours à certaines formations qui vont pas nécessairement mener vers une diplomation qui est réellement nécessaire pour aller sur le marché mm-hmm. de travail. Donc, c'est vraiment des éléments clés en termes de...
Ou dans certains domaines, des reformations obligatoires qui sont très onéreuses.
Aussi.
Même pour quelqu'un d'ici, mais pour quelqu'un qui arrive d'ailleurs, c'est encore
Pour ne pas
difficile.
Parler de l'accès aux ordres professionnels, pour ne pas parler du plafond de verre. Et surtout que le processus d'acculturation diffère d'une personne dont la famille à une autre. Donc, on a des fois des rythmes beaucoup plus accélérés chez oui. la femme que chez l'homme mm-hmm. et vice-versa. Donc, ça peut poser problème.
Sur ce, on fait une petite pause musicale puis on revient dans 2-3 minutes.
Aunque pase el tiempo, te creí pasado, pero aún te extraño. Y aunque ya ha pasado un año, ayer soñé contigo, pero hoy despierto con un nuevo amor. Y es que estoy loca. Contigo yo tocaba la luna. La mente me traiciona y mi corazón.
dejaste tatuadas tus caricias en mi piel. Pero es muy tarde, bebé, no lloraré otra vez. Aunque no puedo olvidarte, a ti no volveré.
En este recinto tiene algo que decir contra este matrimonio, que lo diga ya o calle para siempre.
¡Sofi!
Alors, comme vous venez de l'entendre, c'était Sophie Mel, donc la chanteuse équatorienne qui nous chantait Loquita por ti. Une autre chanson qui a été une suggestion de notre invité Edgar Orozco aujourd'hui. Donc, Oscar, parlez-nous, vous avez, comment vous avez connu Sophie Mel?
Oui, je l'ai connue parce que des fois, j'écoute de la musique équatorienne. Et aussi de la musique mexicaine pour me rappeler de mes racines, je dirais.
Bien sûr.
Et puis c'est comme j'ai connu Sophie Mel.
Donc, quand vous étiez en Équateur, c'était une artiste très populaire là-bas.
Oui, c'est très D'accord. populaire là-bas. Oui.
D'accord. Très bien. Ben, on découvre, nous, c'est fantastique. Merci pour ça. On continue maintenant avec la chronique migratoire d'Olivia Gomez. Donc, la chronique migratoire s'intéresse à la migration sous toutes ses formes, sous le prisme de la culture, de l'actualité, de la philosophie. Aujourd'hui, elle nous parle de l'action de grâce. Elle nous explique, en tant qu'immigrante, qu'est-ce qu'elle pensait de cette fête? Est-ce qu'elle a appréhendé cette fête canadienne? Qu'est-ce que ça évoque pour elle? Et si peut-être elle l'a faite, on ne sait pas. J'en dis pas plus. Je vous laisse avec Olivia Gomez maintenant.
Depuis mon arrivée à Montréal, toutes les fêtes célébrées dans cette ville ont toujours retenu mon attention. Mais une des festivités que j'ai eu le grand plaisir de découvrir est l'Action des Grâces. La première fois que j'ai entendu parler de cette fête, je dois dire que j'étais un peu confuse, car l'histoire que j'en connaissais était celle de la fête américaine Thanksgiving, qui commémore officiellement un festin partagé en 1621 entre des colons et des membres de la nation Wampanoag. Mais, à ma grande surprise, cette fête fait aussi partie des traditions canadiennes. Et bien que les origines de la fête canadienne soient différentes de celles des États-Unis, elle se réfère également à des festins entre colons et autochtones, un symbole de l'entraide et de l'amitié entre ces peuples. Il existe plusieurs rituels d'actes de remerciement depuis la nuit des temps, mais aucune n'a donné lieu à une tradition de ce genre. Diverses initiatives voient le jour ici et là, mais à partir du Moyen Âge, on commence à voir apparaître des manifestations pour célébrer une fête d'action des grâces à un moment précis de l'année. Au Canada, la fête se célèbre le deuxième lundi d'octobre et c'est une très belle occasion pour se réunir en famille ou entre amis pour célébrer les récoltes et remercier la vie pour les petites choses qu'elle nous a apportées dans l'année. Ce que je trouve joli de cette célébration est que peu importe d'où l'on vient, cette fête canadienne est universelle, car en tant qu'immigrant, on peut y participer et je peux vous dire qu'on y prend goût. Cette fête est aussi une belle occasion pour déguster et découvrir des plats traditionnels, qui sont d'ailleurs succulents, comme la dinde farcie, les légumes de saison et mes plats préférés, les desserts, qu'on peut cuisiner avec des citrouilles ou des pommes. Enfin, ce que j'aime le plus de cette célébration, c'est la décoration unique que nous avons lors de cette date. Les arbres sont des couleurs différentes, avec des feuilles rouges et jaunes, qui apportent une ambiance chaleureuse à cette époque de l'année et qui donnent envie d'aller faire une grande randonnée avant de déguster un succulent repas. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne action des grâces et pour tous les nouveaux arrivants, je vous invite à découvrir cette belle tradition.
Merci Olivia pour cette belle chronique et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, on est de retour avec nos invités. Peut-être une dernière petite question. Avez-vous, on va commencer avec notre nouvel arrivant qui sait peut-être, avez-vous un ou deux bons conseils pour quelqu'un qui arrive à Montréal?
Oui, je dirais qu'il faut aimer l'hiver.
Oui. Pas juste pour les nouveaux arrivants, ça. Pour les Québécois aussi. Et il faut aimer l'hiver. Est-ce qu'il faut apprendre à aimer l'hiver?
Non, c'est tout simplement parce que, par exemple, au Mexico, quand il pleut, on nous dit « Oh non, je ne vais pas sortir aujourd'hui parce qu'il pleut ». Donc ici, si on dit « Oh, je ne vais pas sortir parce que c'est frais », on va sortir la moitié de l'année, donc il faut « Oh, c'est frais, ah, je vais sortir quand même ».
Oui, c'est ça. Donc il faut apprivoiser l'hiver. Hein? Ouais, ouais. Il fait froid, il neige, c'est pas grave, on sort, on fait du sport. Donc les sports d'hiver, c'est une belle façon de s'intégrer et d'apprécier un peu plus l'hiver, si oui. C'est difficile. Très bien, bon conseil. Merci Edgar. Et Anisrine, un petit conseil?
Mais en fait, pour parler de l'hiver, nous, on a, au Carré-Saint-Laurent, par exemple, on a différents ateliers qui font que les gens puissent apprivoiser l'hiver. Donc, puis pour revenir à la question que je trouve très pertinente, deux conseils. Un premier conseil, c'est vraiment de parler avec les ressources qui sont pertinentes. Donc, s'adresser aux organismes communautaires comme le Carré-Saint-Laurent pour pouvoir être bien aidé, bien aiguillé et pas nécessairement guidé en fonction d'expériences passées d'autres personnes qui sont arrivées. Votre expérience est une expérience unique. C'est ce que je répète toujours à mes immigrants. Il n'y a pas quelqu'un qui vous ressemble. Vivre en interculturalité égale bien comprendre les équations du pays d'accueil, puis surtout de la société dans laquelle on vit. Essayez de se faire des cadres de référence et de comprendre les cadres de référence d'ici.
Ça prend un petit peu de temps, mais...
Ça prend du temps.
Puis oui, des fois, c'est difficile parce que les nouveaux arrivants n'ont pas toujours les numéros de téléphone, les sites web des organismes, malheureusement. Et parfois, dans leur pays, il y a des charlatans ou des gens qui profitent un peu de ça pour leur donner des conseils plus ou moins bons et très, très, très chers.
Donc, malheureusement.
Malheureusement, alors que toutes les ressources sont gratuites ici. Donc, je ne sais pas, il faudrait que ce soit plus su des nouveaux arrivants, effectivement. Très bien. Bien, merci. On va terminer cette heure avec le quiz. On a toujours un petit quiz montréalais, québécois. avec quelques questions pour notre invité, Edgar Orozco. Alors... votre restaurant préféré, si vous en avez un à Montréal?
Oui, mon restaurant préféré, c'est Tacos Don Rigo, qui se trouve dans Pierrefonds, dans la rue de Saint-Jean. Okay. Oui, Saint-Jean, oui.
Et donc, spécialité tacos?
Les spécialités, c'est tacos. Les places ont des caractères, les tacos sont bons. Okay. Et les propriétés, c'est très sympa. En fait, c'est à partir de l'expérience. Les propriétés, c'est très sympa, très mexicain. On va remarquer, on va dire, OK, ces gars-là, je le reconnais.
C'est super. Donc, on y va pour l'ambiance, on y va pour le taco del pastor. Est-ce qu'ils font
Tacos del pastor, bien sûr, oui.
Donc, on y va pour les tacos, on y va pour... C'est toujours bon d'avoir des bonnes adresses. Ils sont pas toujours bons les tacos ici. Bien. Et votre expression maintenant québécoise préférée?
Yo m'incris.
Oh là! Attention les oreilles chastes. Donc, hein, okay, je ne sais pas si je ne vais pas le répéter, mais je vais dire que c'est l'équivalent québécois de « je m'en fous
». Oui.
Ben, on n'a pas parlé de « tire-toi une bûche », tout va bien. Qui est une autre expression québécoise qu'on trouve très spéciale quand on arrive. Mais quand on essaye de comprendre ça vient de où, ça a de l'allure.
Ben. Ben oui, mais tout le monde, on se prend une bûche pour s'asseoir pour dessus, s'asseoir. Voyons, à la campagne, c'est sûr. Peut-être moins coin Sainte-Catherine-Saint-Laurent, mais à la campagne, ça arrive. Et finalement, on va rester dans un peu dans la cuisine. Est-ce que vous connaissez un peu la cuisine québécoise? Est-ce que vous avez un plat préféré?
Oui, oui, bien sûr, j'aime la poutine, mais je pense que mon préféré, c'est les pâtés chinoises.
Le pâté chinois, qui est zéro chinois, mais québécois. Non, le pâté chinois. Est-ce que vous prenez du ketchup sur votre pâté chinois?
Non. Non.
Ah, c'est bien.
Réflexe des puristes.
Excellent. Et juste pour finir, vous m'avez parlé d'un film québécois que vous affectionnez particulièrement.
Oui, Starbucks.
Starbucks, oui. Donc, une comédie.
Une comédie que je peux l'écouter plusieurs fois et je l'apprécie toujours.
Et vous comprenez tout maintenant? Ça va vite, hein?
Ça va vite, mais heureusement, avec les sous-titres, ça va mieux.
Ben, c'est fantastique.
Il n'est pas rendu à écouter District 31 encore.
Bien, écoutez, on va mettre fin à notre émission comme ça et on va suivre peut-être District ce soir. Bien, donc merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr écouter l'émission sur cibl1015.com ou sur les plateformes de balado-diffusion. Merci à nouveau à nos invités Edgar Orozco et Nisrine Aliaya pour leur participation. Et on n'oublie pas, on va regarder Carrie Saint-Laurent, tout ce qu'ils font. Merci à Olivia Gomez pour sa chronique et aussi merci à Jean-Baptiste Demouy, notre réalisateur, qui s'est occupé aussi de la mise en onde. Donc, on tient à souligner que cette émission a été rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Québec et nous vous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Prendre Racine. Bonne semaine tout le monde.
Merci.
Merci.
Les galas de la disque reviennent cette année pour récompenser les artistes et artisans du milieu du disque et du spectacle québécois. C'est Pierre Lapointe qui tiendra la barre du premier gala, alors que Louis-José Houde animera le gala pour une 16e année consécutive. Qui remportera les prestigieux prix Félix? Pour le savoir, écoutez le premier gala le 3 novembre et le gala de la disque le 7 novembre prochain, en collaboration avec Télé-Québec et Ici Télé. Tous les détails sur palmarèsadisque.ca. Ce message est diffusé par votre radio locale.
Salut, on se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens. Et ça t'inquiète qu'ils doutent et hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19. Même chose pour leurs enfants. On a tous nos raisons, mais en prenant le temps de les écouter, on peut mieux les rassurer et les accompagner. Et ça, c'est important.
Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter. Des questions sur les vaccins? Visitez québec.ca/parlons-vaccin. Un message du gouvernement du Québec.
CIBL, au cœur de la culture.
Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio. Cuisine ton quartier.
Cuisine tu barrio.
Cuisine non quartier avec.
Et barrio.
Cuisine quartier.
Cucina nel tuo quartiere.
Et motbachna.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de Atza quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado « Cuisine ton quartier ». Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre.
Je m'en rappelle une fois avec les gars dans leurs yeux, j'ai cuisiné un pâté chinois, puis j'avais amené des Babybel, puis t'sais, on avait comme des boissons et tout. Puis les garçons étaient comme « Ah, ça, c'est vraiment bizarre. » ils me trouvaient vraiment bizarre, puis on était comme « Ben non. » Puis finalement, ils ont aimé ça, puis t'sais, ils ont tout le temps un plat qui ressemble un peu à ça. « Oui, ça ressemble à ça un peu. » Fait que, tu sais, si j'aurais à cuisiner quelque chose, ça serait ça. Pour moi, c'est typiquement comme canadien-québécois. Puis les Babybel, on a ri parce que les gars, ils en avaient jamais mangé, puis il y en a un qui l'a mangé avec l'emballage rouge, puis il était comme « Non, merci, j'en veux pas. » Là, j'étais comme « Mais pourquoi, c'est vraiment bon? » Là, il dit « Non,